Bienvenidos al podcast Cocina tu barrio.
Cuisine ton quartier.
Cuisine tu barrio.
Cuisine nan quartier avec nous.
Et tabakh haye.
Cuisine quartier.
Cucina nel tuo quartiere.
Et motbakhna.
Cuisine ton quartier.
Ici Annie Roy de Hatsa quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles, le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre!
Je ne parlais pas trop français à l'époque. Je me rappelais un petit peu parce que j'avais pris des cours à la fin des années 80. Mais je ne parlais pas tant que ça. En réalité, ça m'a pris du temps. Et ça m'apprend encore du temps pour en parler correctement le français. Mais ça va, en général, ça m'a pris... grâce à un projet, accélérer un peu le français, l'écriture évidemment et tout ça. Bonjour, je m'appelle Marissa Rosales Argonza. Bienvenue dans le parcours Balado, Cuisine ton quartier à la salle. Je viens du Mexique. Je suis originaire surtout de la ville de Mexico, qui est une grande ville. Et je suis née au sein d'une famille... très, très ordinaire, simple, avec une vie vraiment simple. Et j'étais toujours intéressée par l'art, la culture. Chose que c'était drôle parce que ma famille, c'est pas très axé sur ça. Et c'est ça, j'avais toujours la curiosité d'apprendre, d'aller à la rencontre des différents univers imaginaires. Et à partir de ça, j'ai beaucoup mis dans les études, dans l'art, dans la créativité. Et c'est ça qui m'amène vraiment partout ici, c'est ça qui m'intéresse. Évidemment, il y a deux choses qui m'intéressent. Il y a évidemment la culture, l'art, mais la rencontre avec des gens. Moi, ça m'intéresse beaucoup la connexion avec l'autre. Et surtout, je suis très sensible à la question de l'inclusion. Alors ça marquait mon parcours jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai commencé à faire des études, histoire de l'art, je suis commissaire, je fais des projets de recherche là-dessus et c'est toujours l'art comme forme de connaissance du monde, mais aussi aller à la recherche de la rencontre de nous-mêmes dans l'autre. Si on peut dire ça comme ça. Alors c'est vraiment ça, et c'est ça qui m'amène ici au Québec, au Canada. J'étais intéressée surtout à l'université quand j'ai fait Histoire de l'art, mais avant j'avais fait un parcours que je continue à faire en tant qu'artiste, art visuel, et ça m'intéresse énormément la question des frontières, la notion des frontières et comment on traverse des frontières, mais parfois on bat vraiment monter des frontières, des vraies barricades. Alors c'est ça qui m'intéresse, ça me fascine cette notion de comment on peut connecter, mais aussi comment on peut mettre des murs dans la société en général. Alors c'est ça qui m'amène ici. Je fais des recherches surtout qui travaillent la frontière, le Mexique et les États-Unis. Je m'intéressais pour l'expérience culturelle, artistique chicana, que je trouve fascinante, et comment l'art, la culture chicana, l'art chicano, c'est vraiment les immigrants de l'Amérique centrale et surtout de l'Amérique du Nord, notamment le Mexique, qui vont habiter aux États-Unis. Et dans les années 60-70, on fait une subversion de la culture populaire et la culture nord-américaine, on parle des États-Unis, et on passer des messages sociaux, fascinants, politiques, d'inclusion, que je trouve vraiment intéressants. Alors c'est à partir de ça qui m'amène ici au Québec, parce que moi je trouvais, si ça se passe comme ça aux États-Unis, moi j'aimerais savoir comment ça se passe au Canada, surtout au Québec, que on a vraiment une réalité différente ici, le monde francophone, tout ça. Alors je voulais comment une communauté dans un autre grand pays. Et comment les immigrants arrivaient Alors, moi-même, je suis une immigrante ici, alors je suis fascinée toujours pour ces enjeux. Je suis toujours impressionnée pour la capacité d'adaptation, mais aussi la résilience des artistes, et en général des immigrants, des réfugiés évidemment aussi, qui arrivent ici avec un bagage important, comment ils mettent à contribution. Parfois, c'est invisible sa contribution, souvent, trop souvent, mais aussi comment ils sont résilientes et comment ils arrivent à trouver le bonheur au milieu de tout ça. Je pense que l'immigration t'oblige à être créatif et à te réinventer. On parle beaucoup de réinvention avec la pandémie, mais les immigrants le font depuis toujours. Hein. Et comment ils commencent vraiment à trouver sa place, même à petite échelle. Concrètement, ils font des ressources au niveau de la famille, ils font des connexions, je veux dire, à l'international, à travers les téléphones, à travers tous les médias. Aussi, comment ils arrivent à garder contact, des liens d'ailleurs, mais aussi ils commencent à construire une nouvelle réalité. Dans le cas des artistes, les artistes, ils arrivent à trouver une façon de connecter ces deux mondes à travers l'art. Et souvent, les artistes s'intéressent beaucoup pour les enjeux de la société, des enjeux sociaux. Et il y a beaucoup d'artistes, je pourrais nommer, mettons, Marie Escoura, qui travaille là-dessus, qui parle aussi à l'autre à partir d'une pratique artistique très, très différente, très aussi très féminine, dans le fond. Pour résumer tout ça, je pense que la force, dans les cas juste des Latinos, la force, c'est leur capacité d'adaptation qui vont nourrir à partir des ressources différentes. Ils vont faire un pastiche et offrir quelque chose dans lequel tout le monde puisse trouver quelque chose. Ils sont comme des caméléons un peu, mais en même temps, une racine très profonde. Ils vont mettre plusieurs niveaux d'essence dans sa production. Et ça, c'est fascinant parce que quand on connaît un petit peu le contexte, on voit vraiment... je ne sais pas, des références concrètes comme des cultures anciennes, comme les Aztèques. Je vois beaucoup des productions des gens super jeunes qui ont un lien profond avec les codex mayas, par exemple. Un autre exemple, c'est la fête des morts, qui ici à Montréal, on voit maintenant s'installer tranquillement comme une activité culturelle au mois de novembre. Alors, c'est intéressant. Ils commencent à percer à différents niveaux. Pour découvrir la pratique latino-québécoise et latino-montréalaise, plus particulièrement, je pense que je pourrais recommander deux choses. Il y a des lectures, la recherche commence à se faire. C'était un sujet que je travaillais du côté de la sociologie de l'art ici à l'UQAM. J'ai eu la chance de diriger une publication qui c'est la première qui travaille les sujets, qui s'appelle Vue transversale, et c'est vraiment un panorama. Ça, c'est déjà quelque chose de concret. Mais aussi, il y a plein de festivals. Je collabore aussi dans les festivals Latinarte en tant que directrice artistique. Et ce que c'est le fun de ces projets, c'est qu'on peut vraiment aller chercher des productions récentes à partir d'une réflexion actuelle et mettre en valeur la production des artistes latino-montréalais. Mais ils sont partout, ils sont vraiment partout. Si on est vraiment attentif, on peut voir qu'ils sont, je découvre tout le temps, dans les maisons de la culture, dans différents organismes, mettons Mou par exemple, plein de latinos dans son équipe de travail. Bref, ils sont partout. Récemment, on a mis sur pied différents projets qui continuent déjà des collaborations précédentes, notamment avec les MECMI. On va travailler dans différents produits, mettons des conférences, on va continuer à faire des vidéos, continuer à faire des témoignages, mais aussi à partir de l'art de la scène. J'ai pris certains témoignages qu'on a déjà travaillé en vidéo pour faire des pièces, performances, vidéos numérique. Et on va continuer à faire ces spectacles à partir de cette notion du deuil et l'expérience de la mort en parcours d'immigration. C'est vraiment fascinant, on a adoré ça. Ben, on a plein d'idées, mais on pense surtout aux femmes et on va travailler des notions des vies des couples, par exemple. Et à partir de ces témoignages, on va parler de l'expérience du deuil. Pour moi, le Québec, c'est un laboratoire du futur. Dans le sens que, ici, je trouve que, si même il y a des défis, on arrive à trouver un dialogue interculturel, on arrive quand même à trouver une place où on peut en discuter. C'est comme un terrain de jeu pour les artistes qui imaginent l'avenir. Et je pense que c'est pour ça qu'à ce moment, on parle beaucoup de l'inclusion, de la diversité, de comment s'approcher au passé, comment le montrer, tout ça, comment transmettre tout ça. Et je pense que c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on est rendu à une époque dans laquelle on peut s'en parler, on peut dire les vrais mots, même si parfois ils sont durs. Et parfois, on critique aussi. Je pense que ça, c'est vraiment encourageant pour voir l'avenir, je pense. Les pratiques artistiques québécoises, depuis longtemps, je me rappelle, j'étais au Mexique, je voyais du cinéma, du théâtre avec Boris Schwemann, qui travaille aussi beaucoup au Mexique, et du cinéma, je voyais ça. Et je voyais qu'ici, il y a la culture québécoise à certaines recherches de profondeur. Des sens sont sont pas superficiels et ont une préoccupation sociale et on le voit et je trouvais ça très intéressant, c'est ça qui m'amène ici, malgré que parfois pas tout le monde est d'accord, il y a cette préoccupation sociale. Et dans ce sens, je pense que l'art qui s'est produit ici vraiment est ouvert à inclure de plus en plus différents imaginaires, et ça c'est gagnant pour tout le monde. Je pense que cette ouverture, c'est possible et ça va être vraiment... C'est pour ça que je parle du futur, parce que nos enfants, j'ai un enfant ici, et nos enfants sont plus exposés à ces genres de sujets sensibles pour l'écologie, pour l'inclusion en général, que je ne vois pas ailleurs. Je pense que les Québécois, la culture québécoise, par rapport à la pensée des coloniales, ben, ils sont les deux. On était colonisés et en même temps, ils sont colonisateurs. Et dans ce paradoxe, c'est vraiment difficile à se retrouver. Et je pense que oui, on a beaucoup travaillé pour gagner leur place dans la société et dans le pays. Que c'est toujours un rapport de force par rapport au Canada, le reste du Canada et le Canada anglophone. Mais en même temps, ça, cette énergie-là qu'on dépose là, parfois laisse derrière beaucoup de monde, beaucoup de gens qui arrivent et qui ont la difficulté à se retrouver au milieu de cette grande frontière anglophone-francophone. Alors, en plus, il y a toute la culture autochtone qui a été mise de côté. C'est pour ça que je parle d'une casse-tête hein, dans laquelle on n'est pas victime, non, victimaire tout simplement. Il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de positions là-dessus. Je pense que la pensée décoloniale nous invite vraiment à avoir ça. J'adore cuisiner. La cuisine, c'est partie de mes valeurs parce que la cuisine, c'est un bon exemple des mariages, des cultures. Et là, si jamais un jour on a la chance de se retrouver autour d'une table pour partager un repas, ça va être vraiment ça, un partage. Et ces partages, ça passe pour les tacos, pour la tortilla, pour peut-être un verre du mezcal et pour la connexion, je pense, de retrouver quelqu'un qui partage comme une célébration des vies, la cuisine. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce témoignage. J'aimerais de belles rencontres pour vous, de profiter des rencontres humaines et aussi des possibilités de l'art qui sont toujours des mondes à découvrir.
Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.